Mesdames, messieurs, bonjour. C'est Jacques avec vous sur CFM Radio pour une émission spécialement consacrée aux élections municipales 2026. Les 15 et 22 mars prochains, nous élirons nos conseillers municipaux, un rendez-vous démocratique majeur, avec cette année une nouveauté importante qui concerne en particulier la ruralité et ce mode de scrutin qui change dans les communes de moins de 1000 habitants. C'est la fin du panachage et l'obligation de présenter des listes paritaires, autant de règles nouvelles qui vont modifier les habitudes de vote, et notamment dans nos communes rurales. Alors concrètement, qu'est-ce que cela change pour les électeurs, pour les candidats, pour les futurs maires, et comment se porte l'engagement local dans le Tarn à quelques semaines de la fin de ce mandat des élus municipaux? Pour en parler et nous éclaircir sur ces sujets, deux invités sont avec nous. Monsieur Jean-Marc Balaran est là sur CFM Radio. Bonjour. Monsieur Balaran, alors vous êtes le président de l'Association des maires et des élus locaux du Tarn. Et nous sommes également en compagnie de Madame Aurélie Ragaru, juriste conseillère au sein de cette même association. Bonjour.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être présents ici en studio, dans le studio de CFM Radio. Et tout d'abord, nous allons parler de cette loi du 21 mai 2025 qui étend le mode de scrutin de liste paritaire aux communes de moins de 1000 habitants, jusqu'ici épargnées, et qui représente tout de même les trois quarts des communes françaises. Aurélie Ragaru, commençons par expliquer peut-être le sens de cette nouvelle réforme électorale qui modifie les habitudes des électeurs dès ce scrutin. Qu'est-ce qui change effectivement pour les communes de moins de 1000 habitants ?
Alors effectivement, c'est une révolution dans le Tarn, puisque sur 314 communes, 236 sont concernées par ce nouveau mode de scrutin des communes de moins de 1000 habitants. On passe d'un scrutin uninominal à un scrutin de liste, c'est-à-dire qu'on va présenter une liste entière cette fois.
Désormais, on vote donc pour une liste entière, sans modification, au risque de voir son bulletin annulé. Et j'entends par modification ce qu'on appelait autrefois le panachage, monsieur Balaran. Pourquoi, selon vous, le législateur a-t-il supprimé ce panachage ?
Pour être bien clair, l'interdiction, c'est de rayer un nom, c'est aussi d'en ajouter un. Toute modification qui aura été faite sur le bulletin de vote annulera ce bulletin. Pourquoi l'État l'a fait ? Je pense que l'État l'a fait d'abord pour conforter la parité. Donc la volonté aujourd'hui est d'avoir des conseils municipaux paritaires. Donc là, de fait, nous aurons des conseils municipaux paritaires, forcément. Et ensuite, le scrutin de liste permettra, je pense, et moi j'y suis très favorable, et c'était le cas, la parité était présente dans beaucoup de communes, donc la parité ne sera pas, à mon sens, un changement radical, elle était déjà bien présente. Par contre, le scrutin de liste va être un vrai changement, parce que ça va permettre de présenter une liste avec une équipe, et de porter vraiment un projet tous ensemble. Donc c'est, je crois, ça le vrai changement, plus que la parité.
Est-ce qu'il y a une façon d'imposer un peu ce qu'on peut qualifier de modèle urbain aux communes rurales ?
Non, je ne dirais pas ça comme ça. Je crois que c'est mettre en avant le projet. Je crois que c'est cette notion de projet et d'équipe qui est formée pour conduire ce projet. Je crois que c'est la notion essentielle. Donc je crois que c'est vraiment un plus, parce qu'on aura la certitude d'avoir des conseillers municipaux qui sont majoritairement prêts à déployer le projet qu'ils auront présenté. Donc ça, je crois que c'est un gain. S'il fallait trouver un reproche à ce nouveau dispositif, c'est sans doute dans les toutes petites communes la difficulté à avoir une opposition qui puisse prendre part au débat. Monter une liste de 9 ou de 11 conseillers dans des communes de moins de 100 ou de moins de 500 habitants, paritaire, donc c'est effectivement pas chose simple. À monter d'eux, ça devient assez compliqué. Donc l'opposition aura effectivement peut-être un peu plus de mal à s'exprimer.
Est-ce que vous avez des communes avec lesquelles vous discutez, je veux dire des élus qui s'inquiètent peut-être de ne pas réussir à avoir une liste constituée sur leur commune pour ces prochaines municipales ?
Il y a une...
Oui, Aurélie.
Alors, l'avantage qu'on a pour les communes de moins de 1000, c'est que la loi a quand même introduit une souplesse qui permet de présenter des listes incomplètes.
Il y a des dérogations.
Voilà, ce qui va permettre de ne pas aller jusqu'au nombre de conseillers municipaux prévus par la loi. Donc, on pourra aller jusqu'à moins de noms et jusqu'à plus de noms. Alors, ça a l'avantage voilà, de permettre à des petites communes, éventuellement, s'ils n'arrivent pas à 7 conseillers, voilà, de rester à 5. Et de peut-être favoriser un peu cette opposition, mais qui aura sans doute plus de mal à se monter. Et ça peut aussi, ce qu'il faut rappeler par rapport à cette souplesse, c'est que sur une même commune, on pourra avoir des listes de nombre de candidats différents.
Mmh. Et si une commune ne trouve pas assez de candidates ou de candidats, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ?
Alors pour le coup, si aucun candidat ne se présente aux élections sur une commune, ce qui peut avoir lieu, c'est quand même assez rare. Il y a une délégation spéciale en fait qui est montée par la préfecture, qui est chargée d'administrer pendant 3 mois la commune et de réorganiser des élections en faisant en sorte que cette fois il y ait des candidats. Voilà. Ça arrive parfois quand les élections sont annulées, souvent quand il y a un contentieux et que les élections sont annulées, il y a une petite délégation spéciale qui est montée et qui généralement réussit à monter un conseil municipal par la suite.
Aurélie Ragaru, tant qu'on vous avez le micro, quel conseil simple donneriez-vous aux électeurs des petites communes pour éviter que leur bulletin se voit annulé ?
Gardez à l'esprit vraiment que maintenant, la moindre modification sur le bulletin fera que votre voix ne sera pas prise en compte. Donc il faut le garder à l'esprit. On peut imaginer recopier tous les noms du bulletin, ça ne se sera pas annulé. C'est-à-dire que si vraiment je reprends la liste telle qu'elle a été constituée dans le bon ordre, etc., mon bulletin est censé être accepté. Il vaut mieux pas jouer, voilà, il y a des bulletins qui sont normalement mis à disposition des urnes, et voilà, prendre en compte le fait que si voilà, vous voulez faire ce que vous avez toujours fait, c'est-à-dire barrer un nom pour en rajouter un, ça sera pas pris en compte et votre vote ne sera nul. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut voilà, se déplacer aux urnes et derrière que sa voix ne soit pas prise en compte, c'est dommage, donc il faut quand même le garder à l'esprit.
Bien garder à l'esprit que le panachage s'est terminé, on dit au revoir au panachage de ce scrutin 2026. Est-ce que ça inquiète certains maires qu'il n'y ait plus de panachage, M. Ballaran ?
Alors cette notion de démocratie directe qui est évoquée de temps en temps avec donc le sentiment de perdre une certaine liberté d'écarter Pierre ou Paul en fonction de ce qu'on pense de lui. Donc c'est exprimé de temps en temps, mais je pense que la réforme est majoritairement bien perçue par les élus.
Alors après avoir posé les bases des règles de ce prochain scrutin des élections municipales des 15 et 22 mars prochains, en particulier pour les communes de moins de 1000 habitants, il faut le préciser, nous nous intéresserons après la musique à la motivation des maires à s'occuper, à gérer et à coordonner la vie de leurs concitoyens.
Shape I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. Don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. Well,
parlons des municipales 2026 sur CFM Radio aujourd'hui dans cette émission spéciale et de la réforme aussi hein, du scrutin de ces prochaines élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Nous sommes en compagnie de Monsieur Jean-Marc Balaran qui est le président de l'Association des maires et des élus locaux du Tarn et ici en compagnie d'Aurélie Ragaru qui est juriste au sein de cette même association. Alors après les règles du jeu, parlons maintenant du terrain et du quotidien des maires tarnais. En début d'année, l'ADM 421, l'Association des maires et élus locaux du Tarn, a publié la toute première édition du baromètre des maires du Tarn à partir d'une enquête que vous avez menée auprès des élus des 300 et quelques communes tarnaises. Le mandat qui s'achève 2020-2026 a été marqué, que ce soit par la crise sanitaire, par l'inflation, des tensions budgétaires. Est-ce qu'il y a un constat partagé, M. Balaran, dans le moral, la motivation de la majorité des maires sortants?
Alors je crois que la motivation, elle est globalement intacte. Quelques maires ont pu démissionner au cours du mandat, mais la motivation de la grande majorité est intacte. L'envie de travailler pour leur commune est toujours là. D'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'une forte majorité, on doit être autour de 70% ou peut-être plus, va être candidat à son renouvellement. Donc c'est bien le marqueur de l'envie de continuer à travailler pour la commune. Mais effectivement, le mandat a été un peu compliqué. Donc notamment la crise sanitaire en début de mandat a vraiment marqué les élus. Et ça a été une période particulièrement difficile, surtout dans les communes où on avait un premier tour qui n'avait pas désigné une équipe gagnante, et donc où le deuxième tour a été décalé de plusieurs mois. Et donc ça a créé des conditions assez... Ben, c'était un moment assez bizarre, cette crise sanitaire, que je pense à tous ceux qui l'ont vécu, que ce soit d'ailleurs dans les mairies ou ailleurs, je crois qu'on l'a tous un peu en mémoire.
Quels sont les grands enseignements de ce baromètre? Qu'est-ce que vous en avez tiré de manière primordiale au sein de votre association des maires et élus locaux du Tarn?
Oh, toujours des choses assez stables. En zone rurale, une sociologie avec un nombre de maires agriculteurs qui reste important, même si la part des maires agriculteurs diminue dans la proportion. Une grosse majorité de maires hommes, je crois qu'à moins de 20% de femmes dans le département, et quelque chose qui, je crois, va bouger avec l'évolution de la parité. Donc c'est des choses qui vont venir au fur et à mesure des mandats. On n'aura pas une parité dans le monde des maires sur ce premier mandat, mais c'est des choses, je suis convaincu, qui vont évoluer, comme évolueront aussi la composition des conseils communautaires. Parce que notre élection, en réalité, n'est que le premier et le deuxième tour de quelque chose qui est un peu plus complet. Donc il y a un troisième tour avec l'élection des maires, et il y a un quatrième tour avec l'élection des présidents et vice-présidents d'intercommunauté. Donc c'est tout ce cheminement qui fait le monde des communes et des interco, donc qui est quelque chose qui gère en commun. En fin de compte, la vie d'une commune, c'est la vie de la commune et de l'intercommunalité, quoi. L'un et l'autre ne peuvent pas être dissociés.
Est-ce qu'on peut parler de cette vocation, car c'est vraiment le terme, hein, vocation, on n'y va pas forcément pour le niveau de salaire. Et d'ailleurs, quel est l'ordre du salaire que peut toucher un maire aujourd'hui dans le Tarn, on va dire des communes rurales? Là, on oublie les maires des grandes villes, Carmo, Albi, Gaillac. Alors, un maire, il touche combien, et un adjoint?
Ça soucie les maires tellement peu que je ne l'ai pas exactement en mémoire. Une commune de 100 à 500 habitants, l'indemnité maximale doit être autour de 1100 ou de 1200 euros. Mmh. Mais la plupart des maires ne prennent pas l'intégralité de la somme à laquelle ils pourraient prétendre. Oui. Et par contre, ce qu'on voit de plus en plus, et c'est des questions qu'on pose à l'Association des maires ces jours-ci, parce que les équipes sont en train de préparer leur mandat, on voit de plus en plus d'équipes qui se soucient de dédommager les conseillers municipaux, qui jusqu'ici étaient absolument bénévoles de bout en bout. Et là, on essaye ou de leur attribuer une petite indemnité, ou de leur attribuer au moins une compensation quand il y a une perte de salaire, parce qu'il faut se libérer en journée sur du temps de travail.
Ça peut expliquer aussi la difficulté que certains ont à s'engager pour ça ou à faire partie d'une liste. On entend ici et là la difficulté pour certaines listes à se monter. Ça fait partie aussi des problématiques que les gens ont de se dire, ben, vu tout le temps que je vais y consacrer, il me faut quand même gagner un tout petit peu d'argent avec ça, non ?
Oui, mais ce n'est pas uniquement un problème d'argent, c'est aussi un problème d'organisation, notamment pour avoir des candidates qui doivent souvent gérer un travail, une famille, un mandat. Et donc le nouveau statut de l'élu a amélioré un petit peu leur situation avec, par exemple, la prise en charge de la garde des enfants. Enfin, il y a de petits aménagements qui sont des aménagements mineurs, mais qui vont résoudre quelques problèmes. La même chose aussi pour des élus étudiants ou pour des élus handicapés. Il y a de petites évolutions dans le statut de l'élu qui permettront à les personnes qui en ont l'envie d'être un peu plus facilement candidates.
Il y a quand même eu beaucoup de dispositions sur les dernières années, et pas que sur ce statut d'élu, pour aussi concilier la vie professionnelle et le mandat. Donc on a quand même quelques évolutions qui permettent de jongler un peu entre les deux et d'avoir un peu plus de temps, d'y consacrer du temps, et que ce soit mieux reçu aussi par les employeurs, parce que c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, on avait beaucoup de maires et d'élus agriculteurs, parce que même s'ils n'ont pas forcément beaucoup de temps, ils peuvent l'aménager un peu comme ils veulent. Et alors que voilà, quand on est salarié, c'est beaucoup plus difficile, et là on a un peu plus de règles qui permettent, voilà, de, sans l'imposer à l'employeur pour autant, voilà, de bénéficier, on va dire, de temps, de crédit d'heure, etc.
Ça fait partie du type de questionnement peut-être qui peut vous remonter au sein de l'Association des maires du Tarn. Et j'aimerais à ce niveau, monsieur Jean-Marc Balaran, que l'on rappelle le rôle et les services qu'offre cette Association des maires et des élus locaux du Tarn, parce que beaucoup d'auditeuristes là ne savent peut-être pas ce que vous faites concrètement au sein de cette association.
Alors notre mission est d'abord une mission qu'on pourrait appeler syndicale, c'est-à-dire c'est de porter la voix des communes du département et de défendre leur position. On le fait régulièrement avec nos députés, nos sénateurs, avec les services de l'État. Donc il y a ce dialogue permanent sur de nombreux dossiers pour défendre la position des communes. Et puis on a une partie service aux communes, donc on a un service formation, donc c'est une part essentielle de notre association. Le mandat de maire est un mandat de plus en plus complexe, et donc il y a l'absolue nécessité de se former, même quand on est maire depuis 1, 2, 3 mandats. La formation est toujours indispensable, parce que notre monde bouge en permanence. Donc cette formation qui est essentielle et qui est qu'on va trouver dans la plupart des associations départementales, ça c'est ce qui nous réunit le plus. On a également donc le conseil juridique que rend Aurélie Ragaru chez nous, qui est aussi une mission assez fréquente dans les associations. Et puis on a chez nous d'autres services qui sont un peu plus particuliers, donc on a un service financier qui aide les communes dans le montage des projets, donc en faisant des budgets prévisionnels, en essayant de voir comment intégrer un projet dans le budget de la commune, vérifier la faisabilité, essayer de trouver les bons partenaires. Voilà, donc tout le travail du montage de projet, un observateur fiscal, donc tout ce qui est financier. Et on a également donc un service numérique qui apporte des services en termes de signature numérique, parce que l'activité municipale est aujourd'hui numérisée comme l'est notre vie à tous. Et donc on a besoin d'avoir des systèmes de signature électronique, des systèmes de... ça apporte aussi, par exemple, la publication numérique des marchés publics, tout plein de petits services. Le dernier service... Donc on a un appui pour respecter la réglementation RGPD, donc la protection des données, et on a ensuite donc l'aide à au logiciel Berger Levrault, donc qui sont des logiciels métiers qu'utilisent les secrétaires de mairie, et donc le support de ces logiciels est fourni par l'Association des maires.
Aurélie Ragaru, vous vous chargez notamment de l'accompagnement juridique de ces élus locaux du Tarn dans une période électorale comme c'est le cas là maintenant. De quelle manière et pourquoi vous êtes sollicitée ?
On va dire que je m'ennuie pas beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup de choses en fait sur des élections. Alors ça reste du conseil de premier niveau, mais c'est vrai qu'il y a énormément de réflexions à avoir sur le montage d'une liste, sur la campagne électorale. Il y a des règles très strictes sur la communication, par exemple, ou sur la façon de monter sa liste. Et ensuite, voilà, quand on est candidat, on se projette aussi sur un mandat. Donc parfois des réflexions sur certains projets. Est-ce que j'ai la compétence? Est-ce que j'ai les moyens d'aboutir? Est-ce que voilà, ce conseiller justement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions sur ces sujets-là. Est-ce que ce conseiller qui s'investit beaucoup sur les derniers mandats, je ne peux pas d'une certaine manière lui donner une délégation ou, voilà, et on les aide un peu des fois à poser leurs réflexions sur ces sujets-là, sur l'installation du conseil, la désignation des conseillers communautaires, comme le disait M. Ballaran. Voilà. On est aussi sur l'après et la réflexion pour que justement il y ait une vision dans ce mandat et pas juste une élection et voilà, pour avoir cette continuité, on va dire.
Ouais. Et hors période électorale, on vous contacte le plus souvent, pourquoi ?
Ça peut être un peu de tout. C'est vrai que les communes ont quand même des compétences très très variées qu'on n'imagine pas forcément. On va partir des réflexions sur une voirie avec une problématique d'entretien par exemple ou de propriété. On en ira jusqu'au cimetière. On aura des questions d'état civil sur les élections encore une fois, même sur certains sujets, les écoles. Il y a tellement de compétences qui sont encore aux mains des communes et de problématiques et de procédures qui sont de plus en plus complexes parce que le monde devient de plus en plus réglementaire aussi. Donc il y a beaucoup de sujets voilà, qui sont très très variés. Je ne connais pas encore tous les sujets.
Et votre intervention, elle peut être a posteriori. Je veux dire, si ce n'est pas forcément un maire qui vous contacte, mais si vous constatez quelque chose qu'une commune a développé par exemple, est-ce que vous pouvez les alerter directement pour dire attention, là vous n'êtes pas forcément dans les clous, il faut vous prendre de telle ou telle manière.
Non, on ne va corriger. Vraiment pas faire de contrôle, enfin on ne va pas faire d'opportunité, ça va être vraiment de la saisine de nos adhérents, voilà, qui vont nous interroger sur un sujet, voilà. Mais après, voilà, ça fait 8 ans que j'y suis et c'est vrai qu'on a des relations quand même un peu privilégiées avec ces collectivités puisqu'on fonctionne avec tous les services donc avec eux. Et voilà, on peut être amené quand même à avoir plusieurs sujets en même temps et à les voir sur le long terme, on va dire.
Toutes les communes tarnaises font obligatoirement partie de l'ADM 81, non, monsieur Ballaran.
L'adhésion est volontaire. Donc aujourd'hui, le département est composé de 314 communes et 312 sont adhérentes.
C'est qui les deux qui ne sont pas adhérentes?
Ah non, je ne vais pas.
Et on a pas mal de communautés de communes et d'agglomérations aussi maintenant qui adhèrent aussi, de syndicats.
Et donc c'est vraiment ce bloc communal qui est composé par la commune et son intercommunalité qui est de plus en plus l'interlocuteur. La commune seule aujourd'hui, c'est quelque chose, je pense, qui est en train de passer et on raisonne vraiment sur le bloc commune intercommunauté.
Si on se projette un peu, vous l'avez souligné aussi, M. Ballaran, ce côté formation qui est proposé aux élus locaux, hein, je pense notamment à la DIF, ou au DIF, donc le droit individuel à la formation des élus locaux, ça permet à des élus qui n'ont peut-être pas toutes les compétences, là aujourd'hui, de monter en compétences. Donc ça, c'est des accompagnements sur mesure que vous pouvez encadrer grâce aussi à ce que l'État propose.
Alors, on apporte une montée en compétences par des réunions sur une multitude de sujets. Et on essaye aussi de travailler le réseau. Les adjoints au sport se réunissent régulièrement, les adjoints à la jeunesse se réunissent régulièrement. Je pense notamment aux adjoints ou aux conseils municipaux qui animent les conseils municipaux jeunes, qui se retrouvent entre eux. Et donc on forme et aussi on favorise la rencontre entre élus. Parce qu'on apprend, énormément de ses pairs et ce qu'un a su résoudre, ça permet aux autres de moins réfléchir et de profiter de l'expérience du premier.
Aurélie Ragaru, une question 2.0 pour terminer, parce que l'intelligence artificielle est entrée dans nos vies, qu'on le veuille ou pas. Elle est aussi présente dans cette élection municipale des 15 et 22 mars prochains.
Oui, je pense que de toute façon, elle est présente un peu partout, qu'on le voit ou non. Mmh. Mais... est-ce qu'elle est très présente sur les élections? Je ne sais pas. Je pense que dans tous les cas, oui, sur, à mon avis, quelques bulletins ou professions de foi, il doit y avoir beaucoup d'intelligence artificielle. On voit pas mal aussi de fausses informations, du coup, qui découlent de ça. Les gens travaillent beaucoup avec, donc oui, je pense qu'elle est un peu partout, mais on ne s'en rend pas forcément compte. C'est encore un peu...
On verra ce que ça va donner. Là, au niveau juridique, ce sont des questions que vous vous posez déjà avec vos autres collègues conseillères et conseillers juridiques ou pas?
C'est pas forcément des choses qui vont impacter tout de suite, en tout cas le volet juridique, on va dire. Ça va être pour l'instant encore sur la communication et voilà, des choses un peu... On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Mais sur le mandat, oui, on sera forcément impacté.
Il n'empêche que l'intelligence artificielle a été l'objet de l'université des maires, donc pour le centre de gestion, qui tient cette université sur le même jour que notre salon des maires en septembre. Et donc le centre de gestion a senti le besoin de parler d'intelligence artificielle, parce que c'est quelque chose qui est en train de rentrer dans la pratique des élus et de rentrer dans le métier des secrétaires de mairie. Donc c'est certain que ce sujet-là va devenir de plus en plus présent.
L'association des maires du Tarn et des élus locaux aussi, hein. Il y a un site internet qui existe pour aller voir toutes vos activités et puis vos publications aussi aux futurs élus locaux de prendre attache avec vous, hein, pour voir tout ce qui sera possible de faire ensemble. Vous aussi, le bureau de l'association va bouger vu qu'il y aura des nouvelles élections aussi. Vous nous parlez là de ces différentes élections qui découlent des élections municipales, donc l'association des maires du Tarn aussi verra peut-être son bureau bouger un tout petit peu. En tout cas, on le rappelle, hein, les municipales des 15 et 22 mars prochains marquent un tournant important pour les communes et en particulier les communes rurales. Nouvelles règles du jeu, exigence de parité, liste complète, fin du panachage. Voilà des habitudes qui vont évoluer, mais l'objectif reste le même, faire vivre la démocratie locale. Merci beaucoup à vous, Monsieur Jean-Marc Balaran, président de l'association des maires et des élus locaux du Tarn. À vous, Aurélie Ragaru, juriste conseillère au sein de cette même association. Les élections municipales, je vous le rappelle, c'est les dimanches 15 et 22 mars prochains, un scrutin important pour la vie quotidienne de nos villages. C'était Jacques pour cette émission spéciale sur CFM Radio.